I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditorices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Concocté par Binge Audio.
Bonjour Rokaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Et comme vous le savez, nous parlons sans complexe ici d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de blancs, de musulmans, de juifs.
Et dans le dictionnaire Le Robert, le verbe illustrer est défini en vieux français comme l'acte de rendre illustre, de donner de l'éclat ou du prestige à quelque chose ou à quelqu'un. Illustrer, c'est dans le langage courant l'acte de représenter visuellement par des images ou des dessins et donc, comme toutes les formes d'art, de refléter la société dans laquelle nous vivons. Nous illustrer, nous représenter, nous refléter ou comment l'illustration est politique, c'est le thème de notre Kif Taras du jour.
Et pour en parler, nous avons invité Ina Hunt, qui va nous faire part de son expertise sur la question. Salut Ina.
Salut.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Avec plaisir.
Alors Ina, nous on te connaît, enfin moi je te connaissais d'Instagram, mais on a particulièrement l'occasion d'apprécier ton travail dernièrement puisque tu as illustré l'ouvrage Nos Amours Radicales qui est paru aux éditions Les Insolentes de, enfin l'année dernière.
Exact.
Et tu as aussi illustré la couverture de notre livre Kif Taras, dont on te remercie chaleureusement, qui est disponible en librairie depuis le 13 janvier. Voilà, on est très très contente de te recevoir et d'avoir pu profiter de ton talent.
Merci, c'est un plaisir partagé d'avoir travaillé dessus. J'écoute votre podcast depuis un petit moment déjà, donc c'est aussi un honneur partagé quoi de travailler dessus.
Merci beaucoup.
Merci. Et donc sur Instagram, tu étais connue sous le nom La Cerise Électrique et aussi sous le nom Ina Hunt. Et tu es illustratrice, graphiste et aussi tu es artiviste. Tu vas nous expliquer plus tard ce que ça veut dire. Et nous, dans Kif Taras, on a un petit rituel. C'est qu'on demande à nos invités si il ou elle se situe sur le plan racial et si oui, comment. Par exemple, Rokaya est perçue comme une femme noire et moi comme une femme est-asiatique. Est-ce que toi, Ina, c'est une question que tu t'es posée et dans quelle mesure?
Oui, alors effectivement, c'est une question qui, enfin, c'est une réponse qui s'est présentée à moi quand je suis arrivée en France parce que je suis née à Lomé, au Togo. J'y ai passé mon enfance, donc là, effectivement, je voyais, enfin, tout le monde était noir, enfin, la plupart des personnes étaient noires et il y avait quelques personnes blanches qui nous tapaient à nos yeux d'enfants et on avait une petite chanson qui accompagnait, mais voilà. Et quand je suis arrivée en France à l'âge de 9 ans, c'est là où effectivement j'ai pris, les rôles se sont inversés, je faisais partie des minorités et les questions raciales se sont présentées de manière plus ou moins violente en fonction des expériences. Donc, oui, je m'identifie comme noire et afro-PN. Parce que j'ai vraiment, je considère vraiment avoir ces deux cultures-là, africaine et européenne.
Est-ce qu'il y a un moment, dans ta vie, j'imagine que c'est ton arrivée en France, mais est-ce qu'il y a un événement déclencheur dont tu te souviens particulièrement?
Oui, alors c'était je suis arrivée, j'avais 2 ans d'avance et bon, il y a eu quelques histoires compliquées dans mon parcours familial, personnel, etc., qui ont fait que au moment de la 4e, il fallait que je redouble en fait. La première année de 4e a été très compliquée et tout de suite ce que la conseillère d'orientation avait proposé et presque voulait imposer, c'était me mettre en classe SECPA. Alors, bien sûr, j'ai rien contre les classes SECPA et les personnes qui ont profité de ces cours-là.
Oui, les classes SECPA, c'est pour les élèves qui ont des difficultés particulières dans l'apprentissage à l'école. Ouais.
Alors que moi, enfin, là, c'était vraiment sur une année qui a été très compliquée, donc ça justifiait pas de me mettre directement en classe SECPA. Et elle m'avait proposé un parcours donc pour être auxiliaire puéricultrice. Donc c'était vraiment tout tracé pour elle. Et c'est mon père qui est intervenu en disant bah non, là, elle a eu une année compliquée, elle a eu une année difficile, on va pas tout réorienter juste parce qu'elle a eu une année compliquée et il a imposé. Moi, je voyais pas le problème. Hein. J'étais toute jeune, je comprenais pas trop ce qui se passait, etc. Et j'étais prête à suivre où on m'emmenait, en fait. Et c'est lui qui a vraiment tapé du poing sur la table et qui est intervenu. Et non, j'ai eu mon redoublement normal et le reste de la scolarité s'est très bien passé par la suite, quoi. Mais du coup, c'est par la suite, mais vraiment des années plus tard, hein, où j'ai repensé à cet événement-là. Je me suis dit, c'est bizarre quand même.
C'est sûr que si à 9 ans, t'es en quatrième, tu viens d'un pays étranger et que la première réaction, c'est de dire, on va la mettre en SECPA, c'est sûr qu'il y a un problème. Hein.
Oui. Ouais. Non, à 9 ans, j'étais pas en quatrième. Okay. À 9 ans, j'étais en sixième.
Ouais.
Et du coup, oui, voilà, c'est... Effectivement, il y avait toujours un problème. C'était trop tôt.
De toute façon, les questions d'orientation, enfin, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Le fait que des gens non blancs ont quand même le sentiment que les conseillers de désorientation, selon certains morceaux de rap, les poussent dans certaines voies plus que dans d'autres élèves dans lesquels on place peut-être davantage d'espoir. Quoi. Donc,
c'est ça.
Et donc, grâce à ton père, tu as suivi un parcours qui te ressemblerait plus.
C'est ça.
Et donc, tu n'es pas auxiliaire de puériculture, même si j'imagine que t'aimes sûrement les enfants.
Oui.
Mais tu es maintenant illustratrice.
C'est ça.
Donc merci papa.
Merci papa, merci maman aussi directement. Mais oui, merci à eux deux d'avoir toujours soutenu, même quand j'ai changé de voie et que je me suis orientée vers l'illustration qui était perçue comme très précaire. Donc merci à eux, oui.
Justement, par rapport à l'illustration, la première question que j'ai envie de te poser, c'est par rapport à ce qu'on dessine, parce qu'on dessine tous et toutes étant enfants, enfin la plupart d'entre nous. Et c'est vrai que quand on n'est pas blanc, enfin toi, tu as grandi au Togo, donc peut-être que c'est différent, mais est-ce que tu donnais à tes personnages étant enfant une couleur de peau particulière et est-ce que ça a changé quand le dessin est devenu quelque chose de professionnel?
Alors, c'est une très bonne question et pour le coup, j'ai un parcours un peu particulier parce que moi, je dessinais pas quand j'étais enfant.
C'est... Du tout ?
Non.
T'es pas obligée par l'école ?
Enfin, si, de temps en temps. Ouais. C'est clair, par l'école, oui, quand même. Mais c'était pas mon outil d'expression premier, en tout cas. J'adorais raconter, et j'adorais écouter aussi. Et ça, j'aime toujours écouter aujourd'hui, mais voilà, je m'exprimais plus oralement ou j'écrivais aussi des histoires. C'était plus comme ça. Et le dessin arrivait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, plus à l'adolescence, voire fin de l'adolescence. Donc, c'était vraiment sur le tas.
Je te pose la question parce que moi, étant petite, je ne dessinais que des personnes blanches. C'est-à-dire que j'avais complètement intériorisé l'idée que le crayon rose pâle, c'était la couleur de la peau. J'ai jamais même pensé à dessiner autre chose que des blancs parce que je pense que c'est tout ce que je voyais en fait à la télé et que ça m'a jamais traversé l'esprit étant enfant. Du coup, c'est pour ça que je te pose la question. Mais comme on n'a pas été socialisés au même endroit, peut-être que ça change aussi.
Bah du coup,
toi, tu as commencé adolescente.
Et puis voilà, j'ai commencé sur le tard et du coup, oui, j'ai commencé à dessiner moi en fait. Ah, j'ai commencé à me caricaturer en fait.
Ouais.
Donc tout de suite avec pas tout de suite avec la couleur de peau, c'était plus du trait noir, vide en fait, sans couleur hein, du tout. Et par la suite, effectivement, j'ai rajouté la couleur de peau, ma couleur de peau noire. Et petit à petit, j'ai évolué vers d'autres couleurs, une palette, j'ai expérimenté une palette variée.
Du coup, dans ton travail d'illustratrice, pour faire suite à cette question-là, dans quelle mesure tu as été confrontée aux déformations qui sont imputables au racisme et du miroir déformant de la question raciale sur les personnes noires et non blanches? Et de ça, quel principe tu as tiré pour éviter justement les écueils qui sont assez courants quand on dessine des personnes noires, notamment les lèvres, le nez, les cheveux, le choix de la carnation, etc.
Mmh. Alors... Alors du coup, ce que j'ai assez vite remarqué, quand j'ai commencé à illustrer personnellement et par la suite de manière professionnelle, c'est que, enfin, dans ce qu'on voit dans l'espace public, c'est beaucoup des femmes très filiformes, très blanches, où il n'y a pas de « ou ». C'était
ou des hommes.
Ou des hommes, effectivement. Ou des animaux. j'ai pas tout de suite vu la diversité. Enfin, pour ça, il a fallu que je regarde plus de l'autre côté de l'Atlantique. Beaucoup aux États-Unis ou en Angleterre aussi, outre-Manche, pour voir d'autres types de représentations. Et du coup, bah, moi, effectivement, j'ai... Enfin, après, je pense que c'est ça aussi l'avantage d'avoir commencé sur le tard, c'est que mes réflexions étaient aussi commençaient à être nourries d'autres choses. Donc, tout de suite, j'ai dessiné ce que je ne voyais pas, en fait, et que j'expérimentais pourtant. Donc, effectivement, j'ai commencé à mettre plus de personnages qui me ressemblaient ou que je voyais plus réels ou des caractéristiques propres aux femmes, surtout, comme des vergetures, de la cellulite. Enfin, c'est des choses qu'on ne voyait pas du tout, en fait, avant, parce que les femmes étaient très filiformes dans les illustrations. Et du coup, oui, par rapport aux personnages noirs, ce qui serait à éviter, c'est de faire des représentations à partir de personnages blancs qui sont juste coloriés en noir et qui, du coup, gardent des caractéristiques très caucasiennes. Alors, je dis pas, hein, bien sûr, dans la très grande diversité de la communauté noire, il y a effectivement des personnes noires qui ont des traits très fins, des nez pointus, des lèvres fines, des cheveux fins, etc. Mais là où je trouve que le bât blesse, c'est de se servir de ça comme référence pour illustrer une communauté noire. Et du coup, parce que du coup, ça participe à invisibiliser, en fait, le reste du grand panel de la communauté noire qui a des traits plus perçus comme africains, afro et tout. Donc, avec des nez ronds, des cheveux très crépus, des locks, qui sont encore très, très stigmatisés et méprisés, en fait, quoi. Ou des traits forts aussi. Après, au-delà du physique, je trouve que c'est important aussi d'éviter de tomber dans des stéréotypes du genre les femmes noires avec des grosses fesses tout de suite, alors que non, pas spécialement. Oui, il y en a, mais c'est pas tout le monde. ou des attitudes aussi, sortir du physique et poser des personnages noirs, des femmes noires, par exemple, tout de suite en posture agressive, alors que oui, bien sûr, tout le monde exprime de la colère, mais pourquoi systématiquement mettre des femmes noires agressives ou ultra joyeuses ou invincibles aussi, genre c'est du titane, quoi. Elles sont super fortes, vraiment invincibles. Et tout ça, en fait, pour moi, ça participe à nier l'identité des personnes noires, en fait, de genre si elles sont invincibles, c'est pas normal qu'elles se plaignent ou qu'elles aient mal ou qu'elles veuillent se soigner ou qu'elles veulent se reposer ou prendre du temps pour apprécier les belles choses aussi, quoi. Donc pour moi, voilà, ça fait partie des choses à prendre en compte quand on illustre des personnages noirs, mais pas que noirs, hein, au final. Ça vaut pour tout le monde.
Parce que c'est vrai que tu parles de la manière dont on peut juste utiliser des caractéristiques qui sont plus largement partagées par des corps blancs pour juste poser une couleur de peau et en faire des personnages noirs. Mais moi, ce que j'ai surtout observé, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on va exagérer des caractéristiques qu'on prête aux noirs, donc voir des grosses bouches rouges. Enfin, ça, il n'y a pas longtemps, je relisais des Dragon Ball de l'époque. Oui. Et c'est vrai qu'il y a les personnages noirs, c'est souvent des énormes bouches rouges, rondes, qui ne sont même pas très très bien dessiné, donc c'est des choses qu'on voit énormément, ou des gros yeux ronds, des choses comme ça. Donc toi, dans un contexte où ces représentations restent quand même présentes, en fait, assez fortement présentes et assez nombreuses, est-ce que c'est quelque chose dont tu avais conscience? Est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé de déjouer, ou t'en as pas du tout tenu compte, tu t'es juste concentré sur ta propre perception?
Alors, un peu des deux, bien sûr. Enfin, c'est impossible de passer à côté de ça, effectivement. Hein. Parce que c'est insultant aussi et c'est dénigrant. Donc, oui, j'en ai tenu compte. Et après, je suis passée aussi à côté parce que je voulais pas. Après, je pense que c'est dans ma personnalité où je voulais juste raconter aussi les expériences qui m'entouraient et celles que je vivais aussi. Donc. Du coup, oui, je vais plus proposer directement autre chose et qui, du coup, va participer à lutter contre ça que d'aller en frontal pour lui. Enfin, je préfère plus mettre mon énergie comme ça, quoi. En fait.
Mmh. Moi, je trouve que ce que tu dis par rapport à ton travail d'illustratrice, ça me rappelle des réflexions que moi j'ai, par exemple, quand je crée des personnages ou dans la fiction. C'est-à-dire que lorsqu'on vit dans une société où on est en contact avec des stéréotypes souvent négatifs qui sont liés à nos communautés, eh bien, quand je crée des personnages, je me dis soit je vais perpétuer le cliché, ou bien alors j'ai l'impression de prendre une personne qui n'a rien à voir et d'en faire un espèce d'exemple qui va représenter une exception, en fait. Et donc, en fait, je suis souvent tiraillée entre ces réflexions. Donc, c'est créer lorsque tu veux aussi dépasser certaines attentes. Ça, c'est un travail qui est... en soi, c'est à part, quoi.
Oui, complètement.
Et donc, tu veux ni faire une caricature, ni parler d'un cas isolé qui ne représente pas du tout le vécu des gens. Et voilà. Moi, en tout cas, c'est une question que je me pose souvent parce que je vis dans ce monde pétri de stéréotypes et que c'est difficile de faire des choix qui seraient les tiens, en fait.
Oui, oui.
Et par rapport à la question de la caricature, je voudrais rappeler une polémique qui a ciblé notre Rocaïa nationale dans Le Monde en 2014, qui t'a mise très mal à l'aise. Rocaïa, c'est un dessin qui te représente sous des traits proches des illustrations coloniales, donc au niveau des lèvres, du nez, du crâne, tout à fait. Enfin, c'est clairement une exagération des traits qui sont vus, en fait, pour désigner les personnes sous l'ère coloniale. Et juste à côté de ton dessin, il y a un homme blanc qui est lui aussi dessiné, mais lui, ses traits n'ont subi aucune déformation. Donc, c'est là que c'est extrêmement flagrant, c'est-à-dire que toi, tu es complètement caricaturé, en fait, alors que ce n'est pas un dessin de caricature, hein, c'est un dessin...
C'était censé nous représenter... En fait, on avait participé à une conversation ensemble, je crois que c'était au Festival d'Avignon, et donc c'était la retranscription de la discussion. L'homme, c'est Jean-Louis Ancel, qui est universitaire. Et donc, chacun avait au lieu de nos photos, on avait nos visages qui illustraient l'article. Et en fait, le dessin, c'est un truc de ouf, en fait. C'était vraiment une tête qui ne me ressemblait même pas, en fait. C'est-à-dire que la personne m'a attribué des traits qui ne sont même pas les miens. Parce que dans une caricature, bon, c'était pas censé être une caricature, mais il aurait pu exagérer mes propres traits. Mais là, il m'a carrément plaqué sur le visage des traits qui n'avaient rien à voir avec mon visage. Et du coup, c'est vrai que c'était... Au début, en fait, j'ai eu du mal à être sûre, parce que je me suis dit, mais attends, c'est moi ou... Vraiment, ça ne me ressemble pas du tout. Et je me suis rendu compte, en fait, en regardant des dessins de femmes de l'époque coloniale, que c'était vraiment très, très ressemblant, quoi.
Ouais, c'est-à-dire que si vous regardez si vous cherchez ça sur Internet, il y a cet homme qui, on dirait, il est sorti de Tintin. Enfin, je sais pas, en fait, et il y a une illustration qui est sortie de l'expo coloniale de...
Ouais, de 1931.
Moi, j'ai trouvé ça particulièrement choquant quand même, parce qu'effectivement, si l'idée, c'est de partir sur la base d'une caricature, dans ce cas-là, effectivement, que ce soit une caricature pour les deux personnages, et pas une qui est héritée d'un imaginaire colonial parce que elle est noire, quoi. Donc oui, j'ai trouvé ça très choquant.
Moi, en tant que personne est-asiatique, j'ai souvent connu l'illustration et les représentations des personnes est-asiatiques sous la forme de caricatures, se faisant passer pour juste des illustrations, en fait. C'est-à-dire que, moi, dans mon enfance, je me rappelle de Ming Li Fu, le blanchisseur chinois dans Lucky Luke, qui vient du dessinateur belge Maurice depuis les années 50. C'est un personnage tout petit qui a la peau très très jaune avec des yeux fermés, c'est-à-dire qu'il a pas c'est des traits. Et les mains jointes, les oreilles décollées, et alors que bon, enfin Lucky Luke, il a des traits qui sont pas des traits, on va dire, c'est pas une photo, mais ce n'est pas l'amplification de traits attribués à toute une communauté. Et de la même manière, l'ami de Tintin dans le Lotus bleu, déjà il s'appelle Chang Chongchen. Bon, qui...
c'est beaucoup d'imagination.
Et donc, c'est le personnage qui lui ouvre les portes de la sagesse orientale et qui est inspiré d'une personne réelle. Donc, mais il a la peau extrêmement jaune. Et voilà. Enfin, et donc, ça, c'est des personnages qui, secondaires qui avaient le mérite d'exister, en fait, pour quand on était petit. Enfin, moi, j'étais quand même contente de me retrouver dans des personnages. Mais. Dessiné sous une forme extrêmement négative, en fait, et qui n'était pas du tout fantasmé, irréel. Et donc, combien de fois j'ai vu à la place des yeux, des traits, enfin, c'est toute la réflexion qu'on a sur la question de la bride, des yeux bridés. Enfin, la bride, c'est pas une forme géométrique, donc on peut pas dessiner une bride. Et le fait de mettre des tout petits yeux, enfin, des traits, je les ai vus non seulement dans des BD, mais aussi sur des mugs, sur des assiettes, des verres, etc. Enfin, c'est quelque chose qui va au-delà de juste l'univers du livre, mais aussi de toutes les formes graphiques.
Il n'y avait pas eu quelqu'un dans un Starbucks qui avait eu ça, un mec asiatique, il avait donné son nom et on avait mis des traits.
Exactement,
pour
c'est
le présenter
vrai.
À la place de... Même pas son nom, en fait, juste pour...
Juste deux traits, ouais. traits à la place des yeux. Pour
ouais,
dire,
ça me rappelle un truc, quoi.
Ouais, ouais, ça, il y a eu ça, y a une, c'était dans un Starbucks, il me semble, aux États-Unis.
Non,
il y a eu
non, ouais, je sais plus ce qu'il y a aux États-Unis, mais...
Voilà, et donc ça a perpétué aussi tous ces stéréotypes négatifs liés au physique des personnes est-asiatiques.
Bah, pour moi, en fait, par rapport à l'illustration, enfin justement l'illustration inclusive, je trouve que c'est vraiment un travail d'empathie à faire aussi en amont. C'est d'abord se mettre en retrait soi et essayer de comprendre d'où part l'autre et d'où l'autre parle aussi, avant de l'interpréter et non pas d'apposer tout de suite son imaginaire, ses références à soi sur l'expérience de l'autre. C'est vraiment aller à la rencontre de l'autre et comprendre ses complexités. Il ne s'agit pas de faire un travail de recherche en doctorat ou quoi que ce soit, mais vraiment, il y a des principes de base à faire, à juste aller à la rencontre de l'autre et vraiment comprendre les dilemmes de cette personne-là ou de ces communautés-là. Et d'essayer de s'en rapprocher le plus possible quand même, quoi, dans son travail d'illustration. Enfin, c'est vraiment un travail d'empathie, je trouve.
On va faire une petite pause là pour vous proposer une virgule.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Ina, moi je trouve que là tu as prononcé le mot inclusif. Je pense qu'il y a une question qui brûle les lèvres quand on évoque donc l'inclusivité, je mets entre guillemets donc la diversité, tous ces concepts qui veulent ouvrir les portes au plus grand nombre et démanteler les obstacles racistes, les limitations sexistes et toutes sortes d'oppressions. On se pose souvent la question de est-ce que tout le monde peut-il dessiner tout le monde ? Ça, c'est moi, je prête une attention particulière hein, quand je vois des illustrations de personnages non blancs. Je cherche à savoir, par exemple, comment ils ont été appréhendés. Est-ce que c'est des illustrateurs et illustratrices qui sont au fait des questionnements que traversent ces personnages-là ? Et on place souvent cette question sur le terrain de la liberté, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit ou pas le droit ? Alors qu'en fait, c'est pas une question de liberté, mais une question de représentation, pardon, et de représentativité. C'est pas est-ce que je peux dessiner ce personnage dans cette situation, mais est-ce que je vais bien dessiner ce personnage dans cette situation vu mon niveau de connaissance et qui je suis. Est-ce que toi, c'est des choses que tu remarques dans l'espace public, dans les publications, etc. Et quels conseils tu donnerais aux personnes qui ne sont pas noires et qui voudraient dessiner des personnages noirs? Est-ce qu'ils ont le droit de dessiner des personnages noirs? Est-ce que,
Oui, alors, encore une fois, pour moi, c'est complètement prêter l'attention à l'autre, en fait. Pour moi, tout le monde peut dessiner tout le monde, et c'est même important que tout le monde dessine tout le monde. Parce que justement, c'est une manière de faire communauté ensemble, mais du coup, pour faire communauté ensemble, il faut apprendre à se connaître, en fait. Et justement, apprendre à se connaître, c'est passer la barrière de l'étranger, de la différence et des choses qui nous séparent, en fait. C'est sûr que c'est pas un exercice facile et tout le monde peut se planter, j'allais dire tromper qui était mieux, mais voilà. Mais ouais, tout le monde peut se tromper et personne n'est calé sur tous les sujets, c'est pas possible parce qu'on vit pas tous toutes les mêmes expériences au même moment, etc. Par exemple, moi, je vais illustrer des personnes handicapées ou en situation de handicap. Il va falloir que je me renseigne sur leurs conditions, en fait, sur ce qu'elles ils vivent, parce que je ne le vis pas au quotidien. Je ne comprends pas leur complexité, la complexité de leur vie ou de leur trajet dans l'espace public, etc. Donc, ça me demande cet effort-là de m'intéresser en fait à ces personnes en tant que telles, en tant que identité à part entière, quoi. Donc, et c'est important parce que justement, ça permet aussi de ma position de valide de leur permettre aussi, enfin, d'ajouter une voix à leur voix, en fait. Donc, de rapprocher un peu plus de entre guillemets la norme plutôt que de juste laisser chacun dans sa marginalité à rester dans son microcosme marginalisé, quoi. Je ne sais pas si ça fait sens, ce que je dis.
Si.
Mais oui, du coup, cette question-là, est-ce que c'est aussi une question que tu te poses quand tu représentes des personnes qui appartiennent à d'autres groupes raciaux que le tien? Parce que c'est vrai que la question des yeux pour les personnes d'origine asiatique, c'est une question à laquelle j'ai été exposée plusieurs fois, puisque dans toutes les BD que j'ai faites, il y avait des personnes d'origine asiatique et les personnes avec qui j'ai fait les BD ne l'étaient pas. Donc c'était toujours une question qu'on se pose, puisque aucune de nous deux, dans les deux cas, dans les deux BD, n'était concernée et en même temps on avait à cœur d'être représentative en tout cas d'une certaine manière de percevoir la France donc comme en fait les gens identifient les asiatiques d'après les traits caricaturaux qu'on a vus, comment dessiner une personne asiatique qui puisse être identifiée comme asiatique sans rentrer dans la caricature, c'est une question que je me suis posée, mais comment tu y réponds toi?
Ah oui, c'est clair, c'est pas du tout aisé comme exercice, hein. Moi, je dessine pas beaucoup de personnes asiatiques, mais quand je le fais, généralement, je vais m'enseigner sur les représentations qui existent déjà, sur les artistes aussi, qui ont déjà illustré des personnes asiatiques, des artistes asiatiques de préférence. Je vais poser des questions, je vais chercher à comprendre ce qui est important, en fait, ce qui peut paraître stigmatisant, parce que moi, comme c'est pas mon expérience, ça va pas forcément l'être pour moi tout de suite au premier abord, où je vais pas forcément comprendre. Mais justement, je me laisse la possibilité d'être dans le faux, en fait, en amont, pour justement poser des questions et paraître bête même avec des questions qui peuvent sembler connes ou quoi, mais qui vont rajouter en fait de la réflexion à mon cheminement avant de dessiner. Donc c'est plus comme ça que je vais fonctionner.
Oui, parce que quand on pose la question, on se dit toujours que c'est une privation de liberté. Dans d'autres domaines, la question s'est posée. Par exemple, quand le personnage de Apu dans les Simpsons, qui est d'origine sud-asiatique, a été très longtemps doublé par Hank Azaria, qui est un comédien blanc. En plus, il le doublait en imitant un accent indien qui était assez ridicule et grotesque. Et il l'a doublé pendant 30 ans. Et finalement, il a dû se retirer parce que toute la génération qui avait grandi avec le stigmate qui était amplifié par le personnage d'Apu va finalement pas assez mobilisé pour dire ce que ça leur avait fait. Ou sinon, la question de la traduction, quand il a été question de traduire la poétesse Amanda Gorman, qui s'est notamment illustrée lors de son, lorsqu'elle a déclamé son poème « La colline que nous gravissons » lors de l'inauguration présidentielle de Joe Biden en janvier 2020.
Ouais.
C'est, la question de qui allait la traduire s'est posée. En France, c'est Lou Sendoyakusa qui a été choisie. Plusieurs relectrices ont été sollicitées, dont moi ou encore Mrs. Root. Et donc, cette question-là s'est posée aux Pays-Bas où finalement une personne a été écartée. Donc, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que ça réduit la possibilité de tout le monde en fait, à s'exprimer artistiquement, puisqu'en fait, d'une certaine manière, on ne permet pas à tout le monde de s'inscrire dans certaines expressions artistiques parce qu'on va estimer que ça va réduire en fait, leur possibilité d'être vraiment en empathie totale avec les auteurs initiaux.
Pour moi, c'est aussi important quand même que cette voix-là soit aussi portée par une voix noire, pardon. parce que on reste encore peu nombreuses et peu nombreux sur l'espace public, sur la scène, au devant de la scène. Donc, effectivement, laisser la possibilité que cette traduction-là soit faite par une personne noire, c'est aussi permettre des représentations de ces métiers-là aussi et de ces identités-là. Donc, c'est comme ça que je vois. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question.
Si, bien sûr. Ouais, non, mais tu as bien raison. C'est le fait que nous, quand on parle quand on parle de personnes qui sont en situation de minorité politique, c'est-à-dire que on est peu nombreuses, peu nombreux issus de ces communautés-là à exister, à être représentés dans l'espace public. Évidemment que la question se pose de qui nous représente.
Exactement.
Parce que on essaie de pallier à un manque de représentation. On essaie
Exactement.
De pallier à parce qu'on a toutes vécu, j'imagine. En tout cas, on a beaucoup de témoignages en ce sens qui nous disent que j'ai grandi sans modèle, sans rôle modèle, avec peu
Exactement.
De rôle modèle. Et lorsque on a vécu ça, on a à cœur de proposer donc plus de rôle modèle pour nos enfants, pour la génération qui suit, parce que c'est une richesse pour tout le monde. Et donc les personnes qui se placent sur juste le discours de on limite les possibilités des personnes qui sont déjà sur place,
ouais.
Mais en fait on veut pas de statu quo, on veut du changement, on veut que ça bouge, on n'a pas envie que ce soit toujours les mêmes personnes qui racontent tout. On a envie que ce soit des personnes qui viennent de divers parcours, en fait ça vient de là cette envie de battre les cartes et redistribuer. Et c'est vrai que lorsque tu as déjà les cartes en main et que tu as une super main,
ouais.
T'as peut-être pas envie de rebattre les cartes. Tu te dis, non, attends, on va jouer ce tour-là d'abord. Mais voilà, en fait, la question, elle se pose à ce moment-là. Et je trouve que quand on a ces polémiques sur qui peut, qui a le droit, qui n'a pas le droit, c'est vraiment hyper stérile parce que c'est pas du tout ça. On regarde, on n'est pas dans la grande image, en fait. On est sur, mais moi, je comptais là-dessus, en fait, pour partir en vacances.
Ouais, surtout sur un marché du travail où les gens concernés sont structurellement discriminés. C'est-à-dire que le travail d'Amanda Gorman, il faut aussi qu'il ait du sens politique, puisque c'est une personne qui s'est affirmée dans une arène politique. Et le sens politique, c'est aussi de permettre à une personne qui a une expérience similaire à la sienne dans un autre pays de s'exprimer aussi en faisant son travail, puisqu'elle est moins sollicitée que les autres, quoi. Donc,
Exactement. Et puis, il y a quelque chose de très empouvoirant aussi d'être noir en France et de pouvoir voir ce genre de représentation. Enfin, moi, typiquement, dès lors où je suis arrivée en France jusqu'à jeune adulte, il a fallu que je me tourne encore une fois de l'autre côté de l'Atlantique ou en Afrique ou au Royaume-Uni pour avoir des représentations en fait de personnes noires qui réussissaient ou qui vivaient de la manière dont les personnes blanches vivaient en France et pas de la manière dont les personnes noires étaient représentées en fait en France parce que c'était toujours très stigmatisé.
Sur ton compte Insta, tu te définis comme illustratrice, inclusive et artiviste. Est-ce qu'il est important pour toi d'affirmer ces valeurs dans ton activité professionnelle ?
Oui, ouais, très important.
Qu'est-ce que tu veux dire par artivisme ?
Pour moi, être artiviste, c'est utiliser mon art pour interroger en fait la société et surtout les normes dans lesquelles tout a été érigé. Enfin, chacun a été posé et rangé dans des cases. Pour moi, c'est utiliser l'art pour percer un peu ces cases-là et dire en fait il y a pas vraiment de cases parce que nos identités sont multiples et complexes et elles sont très fluides sur tous les niveaux, donc c'est important de justement porter d'autres regards, en fait. Donc, en tant qu'artiviste, je veux beaucoup m'intéresser à tout ce qui va être marginalisé, exclu. Je pense que ça se voit dans mon travail, surtout. Et mais mon travail, surtout, perso, c'est pour ça que je fais la différence avec illustratrice. Illustratrice, c'est plus mon travail pro, donc avec différents projets, etc., qui ne sont pas forcément les miens. Artiviste, c'est vraiment sur le côté projet perso que je vais exposer en galerie. Où, voilà, je vais surtout m'intéresser, donc, comme je disais, à tout ce qui est marginalisé et exclu pour rassembler un petit peu et ramener un peu à la norme, au lieu que ce soit marginalisé, que vraiment remettre un peu, redistribuer les cartes complètement.
Est-ce que tu penses que le fait de t'affirmer, d'affirmer ces valeurs qui te sont chères, ça peut te fermer des portes ou t'ouvrir des portes?
Ouais. Ah oui, complètement, oui. Ça peut complètement me fermer des portes parce que beaucoup d'entreprises qui pèsent hein, vont plus vouloir une image plus lisse, plus joyeuse, funky et tout le temps. Joyeuse, funky, etc. Sauf que moi, je suis pas forcément sur ce registre-là. C'est oui, bien sûr, j'adore tout ce qui est joyeux, léger, funky, tout ce que vous voulez, mais j'aime bien aussi aborder d'autres sujets qui sont plus touchy, même si je vais les aborder en douceur ou avec mon style, voilà, quoi, qui est beaucoup plus plus doux. Mais je sais que c'est dérangeant. Et bien sûr que j'ai déjà eu des portes qui se sont fermées, mais d'un autre côté, tant mieux, parce que je suis pas non plus pour des entreprises ou des personnalités qui vont juste aller voir des artistes inclusifs ou inclusives pour l'étiquette. Pour l'étiquette de, voilà, le féminisme washing ou inclusivity washing, juste se la jouer inclusif alors que pas du tout, quoi. Donc ça m'intéresse pas forcément non plus. L'idée, c'est de bousculer les choses et changer la donne. Donc,
Mais je trouve ça hyper... c'est intéressant ce que tu dis dans ton expérience d'illustratrice professionnelle, parce que c'est hyper paradoxal de l'illusion que l'art peut être neutre. Et que, de ne pas... Si, en fait, tu crois que ton art est neutre, c'est souvent que tu...
Tu es droite.
Tu peux pas être neutre ou apolitique, c'est-à-dire que tu es probablement, tu vois, baigné dans une idéologie dominante, et t'as pas l'impression de te détacher de ce qui se passe ailleurs. Et c'est comme, tu vois, le fait que tu te dises ouvertement artiviste, que tu doives te l'affirmer, c'est pour moi de la même manière que... Tu sais, les gens qui se disent qu'ils ne sont pas racistes, mais ils ne sont pas quand même antiracistes, hein, parce qu'il ne faut pas pousser. c'est un peu la même chose, c'est qu'en fait, maintenant, il faut... Les gens qui ne s'affirment pas ouvertement antiracistes, je me dis attention. Je pense que là, il y a un loup. parce que c'est vrai que c'est devenu presque... Tu vois, il y a quand même un... C'est paradoxal de devoir dire quelque chose. L'art, normalement, c'est pour bousculer les choses. Si tu fais de l'art et que tu ne bouscules rien, c'est qu'en fait, ce n'est pas très artistique.
C'est ça.
Ça ressemble un peu à la propagande que tu fais pour des régimes en place ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où ton art ne questionne pas les structures en place, c'est qu'il est, par essence, il est conservateur. Il conserve simplement ce qui existe. Donc, c'est en ça qu'on dit qu'il est, enfin, forcément, il n'est pas du côté de la progression, quoi.
C'est exactement.
Enfin, du progressisme, pardon.
Et si je replace le curseur sur moi, c'est vrai que. En fait, je dis ça, hein, si je replace le curseur sur moi, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu lors des rencontres avec nos amours radicales. Je ne m'affiche pas comme militante, parce que pour moi, être militante, c'est s'organiser, être dans un collectif, etc. Et c'est vrai que moi, je travaille en solo comme artiste, artiviste, du coup. Et je ne l'ai pas tout de suite, j'ai pas tout de suite mis ce mot-là sur mes expériences. Mais pareil pour l'inclusion, pour moi... Aujourd'hui, il faut nommer les choses, mais moi, je me sens inclusive depuis longtemps. Enfin, je suis née au Togo, j'ai une autre expérience, j'ai une autre... j'ai vécu d'autres expériences en arrivant ici. J'étais migrante, donc j'ai d'autres expériences. Mes parents ont immigré aussi, donc c'est encore d'autres expériences. J'ai vécu en banlieue, en banlieue sub-sud, etc. Donc, ça participe à encore d'autres... Enfin, il y a plusieurs expériences comme ça, marginalisées justement, qui se sont ajoutées au fur et à mesure de mon parcours et qui font juste naturellement sens en fait dans mon travail. Je ne me suis pas posée un jour en me disant OK, bon, aujourd'hui, je décide d'être inclusive.
Il y en a de plus en plus aujourd'hui, et c'est assez rare quand même encore pour qu'on les célèbre. Et tu disais tout à l'heure que tu regardais souvent de l'autre côté de l'Atlantique pour justement que ton regard s'accroche sur des productions. Je voulais qu'on cite vite fait le travail fait par le court métrage d'animation qui s'appelle Hair Love, qui a reçu l'Oscar 2020 du meilleur court métrage. Et qui, enfin, moi je suis pas noire et j'ai été extrêmement touchée par ce court-métrage qui montre. Donc c'est Matthew A. Cherry qui montre l'histoire de c'est Steven, un père afro-américain, et en l'absence de la maman, il apprend il coiffe sa petite fille. Et enfin, il y a énormément de choses qui se passent dans cette œuvre. Donc il y a à la fois le côté extrêmement intime de la relation enfant parent père fille, et évidemment il y a aussi un pan extrêmement militant sur les cheveux, sur comment se prendre soin de soi, comment prendre soin des gens qu'on aime, et ce que ça signifie d'être noir en 2020. Et donc tout ça, enfin, c'est aussi une forme d'artivisme d'allier à la fois ce qu'il fait en tant que réalisateur et des valeurs qu'incarne ses communautés.
Complètement.
Et ben, c'est une très belle note pour terminer cet épisode de Kif Taras. On a eu le plaisir de recevoir Ina Hunt, que vous pouvez retrouver sur Instagram sur le compte @ina.hunt. H-U-N-D-T, et qui a illustré la couverture de notre livre Kif Taras, qui est dans vos librairies depuis le 13 janvier 2022. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener, si vous avez peut-être des illustrations qui peuvent illustrer pour faire une répétition le propos que nous avons développé. Vous avez des expériences personnelles qui parlent de tout ça, ou des choses que vous avez identifié, vous pouvez nous contacter par mail en nous écrivant à kiftaras@binge.audio. Donc on reçoit et on lit tous les emails, même si on ne répond jamais. Mais sachez que voilà, ils ne tombent pas dans nos spams. Vraiment, on reçoit tout et on les lit avec attention. On est très très heureuse, mais alors on n'est pas du tout discipliné dans les réponses. Vous pouvez aussi nous contacter sur les réseaux sociaux en suivant @kiftaras sur Twitter et sur Instagram, ou sur Facebook aussi. Il y a une page kiftaras, sinon le hashtag kiftaras tout simplement.
Kiftaras, c'est un podcast produit par Binge Audio. La prise de son et la réalisation sont aujourd'hui assurées par Elisa Grenet. Merci à notre productrice Naomi Titi pour la prépa et l'édition. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Rokhaya.
Merci Grace.
Merci Ina.
Merci à vous.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.